Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Dans quelques heures, le premier pape venu des Amériques donnera sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde de la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, où il était apparu le 13 mars, peu après son élection, devant des milliers de fidèles et de journalistes du monde entier. Depuis, avec ses gestes de proximité, sa simplicité, ses choix inédits, celui qui a choisi le patronyme de François a suscité un intérêt grandissant. Son message pascal sera écouté à l'échelle de la planète. Il s'agit de la dernière étape de ce que l'on a coutume d'appeler le marathon pascal à Rome. Après les messes du Jeudi Saint, la célébration de la Passion du Seigneur, le chemin de croix au Colisée, la vigile pascale et la messe du jour de Pâques, que le pape François célébrera ce dimanche à partir de 10h15 sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Une messe moins solennelle que celle de la vigile, sans concélébrant et sans homélie, l'évangile sera proclamé en latin. Cette célébration est caractérisée par le rite du Resurrexit. Au début de la messe, deux diacres ouvrent les portes d'une icône du Christ Sauveur. À midi, la bénédiction Urbi et Orbi confère l'indulgence plénière aux conditions habituelles, y compris à ceux qui la suivent à la radio ou à la télévision. Le pape François a voulu que plusieurs lectures et processions de ces célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques soient simplifiées et raccourcies.
Exultet iam angelica turba celorum. Exultent divina mystère.
L'office de la vigile pascale est le plus riche de l'année liturgique, ponctué de gestes symboliques. La bénédiction du feu nouveau, la procession du cierge pascal, la liturgie baptismale. Selon le mot de saint Augustin, c'est la mère de toutes les liturgies, le cœur et le sommet de l'année liturgique. Le feu et la lumière évoquent le passage à une vie nouvelle. Pendant cette célébration, les catholiques renouvellent les promesses de leur baptême et de nombreux baptêmes sont célébrés. En particulier des baptêmes d'adultes. Cette année, quatre catéchumènes de quatre pays, Albanie, États-Unis, Italie et Russie, âgés de 17 à 31 ans, ont été choisis pour recevoir le baptême des mains du nouveau pape. En France, cette année, on atteint le chiffre de 3220 baptêmes d'adultes. Le choix de Pâques pour recevoir ce premier sacrement est symbolique. Frère Jean-Philippe Revel, auteur d'un traité des sacrements en 6 volumes publié aux éditions du Cerf, analyse les parallèles qui existent entre Pâques et le premier sacrement.
Le baptême, c'est le sacrement de l'eau. Dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, l'eau est symbole de vie. Le Christ, à de nombreuses occasions, il a parlé de l'eau comme étant ce qui fait vivre. Par exemple, avec la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau, je t'aurais donné de l'eau vive. Ou encore, à la fête des tentes, quand Jésus prend la parole et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, de mon sein couleront des fleuves d'eau vive. Et cette idée que les fleuves d'eau vive sont ce qui donne la vie et qui coule du sein de Jésus est reprise au moment de la croix, quand on transperce le côté Dieu du Christ et il en coule du sang, c'est normal, et de l'eau. Les symboles sont extrêmement riches, de même que l'eau signifie la vie. L'eau sert aussi à se laver. Et que par conséquent, l'eau est aussi un symbole vécu de la purification des péchés. Ça explique d'ailleurs que Jean-Baptiste, qui est l'inventeur du rite d'eau du baptême, et c'est lui qui a dit « Celui qui vient après moi, lui vous baptisera dans l'eau et l'esprit ». Ce qui est alors là le sens manifeste du baptême. Une autre dimension encore, l'eau est symbole de vie, mais elle est aussi symbole de mort. Dans l'eau, on se noie. On dit une eau morte comme on parle d'une eau vive. Les deux significations symboliques sont contradictoires et cependant complémentaires.
Comment vous expliquez que parmi les catéchumènes, ces baptisés adultes, il y ait de plus en plus de jeunes ?
C'est un retour à la pratique de l'Église primitive. Au moment où le Christ a fondé l'Église, le baptême ne pouvait intéresser que des adultes parce que le baptême suppose conversion, changement de vie, ouverture de notre cœur à l'Esprit Saint, toutes sortes de choses qu'un enfant n'est pas capable de comprendre et moins encore de désirer. Il me semble que le baptême a toujours en lui une signification de commencement. C'est le commencement de la vie chrétienne. Alors, quand il s'agit de baptiser des adultes, spontanément, le moment où ils seront intéressés par le désir du baptême et où ils voudront le préparer, ce sera un moment qui correspond un peu à l'adolescence.
Le frère Jean-Philippe Revel, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. Une ostension télévisée du Saint-Suaire dans le cadre de l'année de la foi voulue par Benoît XVI. Ce samedi, en début de soirée, la première chaîne de la télévision italienne a diffusé en Mondovision une exposition extraordinaire du célèbre linceul de Turin. Cette ostension télévisée n'est pas la première du genre. Il y a 40 ans, le 23 novembre 1973, la télévision italienne avait montré les images du Saint-Suaire exposées verticalement dans un salon du Palais Royal de Turin. Lors de la dernière ostension publique en 2010, quelques 2 millions de pèlerins venus du monde entier ont défilé devant la relique dans la cathédrale de Turin. Benoît XVI, qui avait fait lui aussi le déplacement le 2 mai, avait qualifié le linceul d'icône du samedi saint. Son successeur, le pape François, a enregistré un message vidéo diffusé dans le cadre de cette émission. On écoute un extrait de ce message.
Questo volto agli occhi chiusi.
Ce visage a les yeux clos, c'est le visage d'un défunt, et pourtant mystérieusement il nous regarde, et dans le silence il nous parle. Cette image, imprimée dans la toile, parle à notre cœur et nous pousse à gravir le mont du calvaire, à regarder le bois de la croix, à nous immerger dans le silence éloquent de l'amour. Ce visage défiguré ressemble à tant de visages d'hommes et de femmes blessés par une vie qui ne respecte pas leur dignité, par des guerres et des violences qui frappent les plus faibles. Pourtant, le visage du Suaire communique une grande paix. Ce corps torturé exprime une souveraine majesté. C'est comme s'il laissait transparaître une énergie contenue mais puissante. C'est comme s'il nous disait « Aie confiance, ne perds pas l'espérance. La force de l'amour de Dieu, la force du ressuscité, vainc tout. »
La force del risorto vince tutto.
C'était un extrait du message vidéo du pape François à l'occasion de l'exposition du Saint-Suaire en Mondovision, une ostension télévisée autorisée par Benoît XVI avant sa renonciation. Sujet passionnant d'étude pour les scientifiques, objet de dévotion pour d'autres, le linceul de Turin n'a de cesse d'interroger, d'étonner, de fasciner. Si la science a pu parvenir à certaines certitudes quant à la nature de l'image, qui n'est pas une peinture, et aux éléments biologiques qu'elle recèle, sang humain, sueur, traces d'aloès, de myrrhe et de pollen, elle reste néanmoins muette devant d'autres interrogations, ayant trait notamment aux circonstances de formation de l'image sur le tissu. Écoutez Jean-Maria Zaccone, directeur scientifique du musée diocésain du Saint-Suaire, vice-directeur du Centre international de syndonologie de Turin et membre de la commission diocésaine pour le Saint-Suaire de l'archidiocèse de Turin.
D'un côté, on pense que peut-être quelques réactions entre de matériaux biologiques présents sur le corps, sang, sueur, qui a interagi avec les tissus en laissant une image. De l'autre côté, quelqu'un a dit que l'image est due à un rayonnement, qui peut être un rayonnement de lumière, de chaleur et aussi nucléaire. Alors, du point de vue scientifique, la première route est parcourible parce que c'est quelque chose qui est dans le domaine de la science. L'hypothèse du rayonnement est inapplicable en l'espèce parce que suppose un comportement du cadavre qui ne peut être trouvé dans la nature. Un cadavre n'émet pas ni les lumières, ni des rayonnements nucléaires. Il est clair qu'il faut évoquer un événement qui, en soi, n'a rien de scientifique, donc la résurrection, en créant un indu mélange entre le scientifique et la théologie. Et nous sommes arrivés à des distorsions évidentes du type quelqu'un a affirmé que le sanctuaire est la preuve scientifique de la résurrection. La résurrection, ce n'est pas dans le domaine de la science, c'est dans le domaine de la foi.
Alors, le corps est sorti du linceul, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que la science a une explication à proposer à ce sujet?
Les scientifiques peuvent seulement dire qu'il y a une empreinte, que l'empreinte de cet homme est une empreinte qui a des caractéristiques particulières. Et aussi, on peut dire que le cadavre qui était là-dedans n'a pas été corrupt. Donc, le cadavre est sorti de cette linceul avant la corruption. Mais comme a pu sortir avant la corruption, ce n'est pas explicable du point de vue scientifique au moment, parce que une intervention humaine avait endommagé la perfection de l'image. Donc ça, la science va dire, je ne peux pas expliquer, je sais que dedans, le corps n'a pas connu la corruption. Mais comme ça est venu, d'un point de vue scientifique, n'est pas explicable aujourd'hui.
Quelle est la signification du Saint-Suaire pour les croyants? Quel message délivre-t-il au monde d'aujourd'hui?
La première chose, c'est que c'est une image et que c'est l'image d'un homme qui a souffert et est morte, comme les évangiles nous racontent la souffrance et la mort de Jésus-Christ. Mais il y a aussi le bout pour une réflexion sur la résurrection, parce que je vous dis, ce corps-là n'a pas connu la corruption. Donc le Saint-Suaire est quelque chose qui nous aide à une grande méditation sur la mort du Christ, sur la souffrance du Christ pour amour pour les hommes, et aussi sur ce qui est le reste pour la foi. Donc après la mort, pour notre foi, il y a eu la résurrection. Jean-Paul II nous a dit que le Saint-Suaire, pour les croyants, est le miroir de l'Évangile. Parce que dans le Saint-Suaire, on voit ce que les Évangiles nous racontent avec beaucoup de pudeur de la tragédie et de la mort de Jésus-Christ. Mais c'est aussi une ouverture envers l'espérance de la résurrection et la lumière de la résurrection.
Au-delà de l'aspect purement dévotionnel, vous l'avez évoqué, il y a des polémiques, il y a des débats, surtout dans le monde scientifique. Comment expliquer cette fascination intemporelle qu'exerce le Saint-Suaire sur les croyants, les non-croyants, les scientifiques et les autres?
Le Saint-Suaire, c'est quelque chose qui interroge l'homme. Si vous allez voir sur les publications, sur les livres, surtout sur le web, vraiment le Saint-Suaire est un signe de contradiction. Et ça porte à beaucoup d'intérêt, mais aussi à beaucoup de débats, parce que en débattant sur le Saint-Suaire, on va débattre aussi sur la réalité de historique et de foi de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a fait cette année l'ostension télévisée du Saint-Suaire, le jour du samedi saint. Vous rappellerez que Benoît XVI à Turin avait dit que le Saint-Suaire est l'icône du samedi saint écrit par les cinq. Cette année, c'est important, on l'a fait parce que c'est l'année de la foi, l'année de l'évangélisation, et donc sûrement le Saint-Suaire est un objet qui a un fort effet d'évangélisation parce que sa présence porte à contempler et à se confronter avec l'histoire de Jésus-Christ.
Le directeur scientifique du musée diocésain du Saint-Suaire, interrogé par Manuela Affigi. À la fin du chemin de croix vendredi soir au Colisée, le pape François a noté que parfois nous avons l'impression que Dieu ne répond pas au mal, qu'il demeure silencieux. En réalité, Dieu a parlé, et sa réponse est la croix du Christ, une parole qui est amour, miséricorde, pardon. Elle est aussi jugement. Dieu nous juge en nous aimant. Si j'accueille son amour, je suis sauvé. Si je le refuse, je suis condamné, non pas par lui, mais par moi-même. La parole de la croix est aussi la réponse des chrétiens au mal qui continue à agir en nous et autour de nous. Les chrétiens doivent répondre au mal par le bien, en prenant sur eux la croix, comme Jésus. Au cours de ce chemin de croix, on a prié pour que l'Orient redevienne le berceau des civilisations. On a prié également contre l'avortement, l'euthanasie et les manipulations génétiques. À l'occasion de la Semaine Sainte et des fêtes de Pâques, les évêques d'Europe ont exprimé leur sollicitude pour l'île de Chypre, durement touchée par la crise économique. Dans un message de soutien, Mgr Youssef Souaif, archevêque des Maronites à Chypre, ils assurent les Chypriotes de leurs prières pour leur pays, déplorant la grave crise économique qui engendre de grandes souffrances, en particulier parmi les plus vulnérables. Les évêques souhaitent que la solidarité démontrée par les pays de l'Union européenne permette à Chypre de sortir des difficultés économiques actuelles et de retrouver la prospérité. Aux Philippines, cette année encore, des évêques catholiques ont appelé les fidèles, mais sans succès, à renoncer aux crucifixions rituelles extrêmes du Vendredi Saint. Chaque année dans le pays, des croyants revivent la passion du Christ en se faisant crucifier avec de vrais clous. Des pratiques que déplore la hiérarchie catholique du pays, qui invite à se concentrer plutôt sur la prière et la conversion. Tel est le véritable esprit qui doit prévaloir pendant la période de Pâques. Dans un message de vœux au nouveau pape, le grand rabbin de Rome a regretté le poids d'une histoire d'incompréhension qui se reflète dans les prières du rite du Vendredi Saint. Riccardo Di Segni reconnaît cependant que des progrès ont été accomplis en matière de dialogue grâce à l'œuvre d'assainissement des relations entre les deux communautés. La fête de Pâques représente aussi bien le lien que la séparation entre les deux religions. Le grand rabbin de Rome souhaite que Dieu rende juifs et catholiques capables de comprendre réciproquement le sens de la différence et la valeur de la fraternité. Le pape François avait adressé ses vœux au rabbin à l'occasion de la Pâque juive. Et comme chaque semaine, nous terminons cette émission par le commentaire de l'évangile de ce 31 mars, dimanche de Pâques. Et c'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. « Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts ». Nous retrouvons le père Pascal Montavi.
L'évangile de ce jour nous raconte comment Marie-Madeleine, Pierre et Jean découvrent le tombeau vide. Marie-Madeleine est la première à se rendre au tombeau de grand matin. Elle voit que la pierre a été enlevée, mais elle ne comprend pas que Jésus est ressuscité. Elle court porter la nouvelle à Pierre et à Jean. « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Marie-Madeleine témoigne de cet attachement inconditionnel du disciple à Jésus. Elle aime Jésus, elle prend soin de lui. Elle est partie embaumer son corps alors qu'il fait encore sombre. L'attitude de Marie-Madeleine représente un exemple à suivre pour tout chrétien durant l'Eucharistie. Être tourné vers le corps du Christ et le chercher en courant. Pierre et Jean, eux non plus, ne comprennent pas que Jésus est ressuscité. Ils courent ensemble vers le tombeau, Jean est plus rapide, mais il attend Pierre qui entre le premier. Cette précision montre la primauté de Pierre parmi les apôtres. Il est celui que Jésus a choisi pour fonder son Église sur laquelle les portes de l'Hadès ne prévaudront pas. Il est celui pour qui Jésus a prié afin que sa foi ne défaille pas et qu'il affermisse ses frères après la résurrection. Aujourd'hui encore, nous accueillons son successeur et nous savons que c'est lui que le Seigneur a choisi pour être notre pasteur. Jean entre à son tour. Il voit le linge qui avait recouvert la tête de Jésus roulé à part, à sa place. Il vit et il crut. Marie-Madeleine et Pierre ont aussi vu le tombeau vide, mais il n'est pas dit qu'ils crurent. Il leur faudra plus de temps. Jean, lui, croit immédiatement à la vue du tombeau vide. Cette expérience de Jean doit nous interpeller. D'une part, elle montre la nécessité de voir. Une foi totalement aveugle n'existe pas. Pour croire en Jésus, il est nécessaire d'avoir entendu sa parole, d'avoir vu ses guérisons, ses exorcismes, de savoir que Jésus est vivant et qu'il est en train d'agir dans notre vie aujourd'hui. Une foi vivante est une foi où est donnée la possibilité d'agir à l'Esprit-Saint. Mais d'autre part, ce que Jean voit est un tombeau vide, non pas le Seigneur ressuscité. Il demeure toujours une part d'inconnu, de questions et même de doutes parfois. Jean dépasse cette obscurité car il est ce disciple bien-aimé qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Il est tellement proche de Jésus qu'il sait reconnaître le mystère lorsque celui-ci se dévoile. En cela, Jean est un exemple pour nous. Il est comme une invitation à passer du temps devant le Saint-Sacrement afin d'être attentif aux signes que Dieu nous donne. En ce jour de Pâques, le Seigneur veut répandre ses grâces en abondance. Demandons-lui d'avoir, nous aussi, le même désir que Jean pour courir au tombeau et faire la même expérience que lui durant l'Eucharistie, de voir et de croire que Jésus est Seigneur, qu'il me sauve de la mort et me donne la vie éternelle.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Bonne fête de Pâques à tous.